Et c'est Émilie que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Émilie.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène alors?
En fait, c'est un trop-plein de plein de choses en fait.
Alors bougez pas, je pousse tout ce qu'il y a sur le bureau et vous allez tout déposer là. On va faire le tri ensemble.
Ok, ben, c'est que en fait, ma famille, enfin je c'est très compliqué. Avec mon ancienne relation, c'est très compliqué. En fait, tout est compliqué avec mon travail, c'est très compliqué. En fait, c'est toutes les choses réunies, c'est tout un bazar en fait.
Vous cochez la case, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué, oui.
Alors, par quoi on commence?
Parce que vous voulez savoir.
Quel âge avez-vous, Émilie, pour parler comme ça de tout ce qui est compliqué dans votre vie?
42 ans.
D'accord. Alors, on va parler peut-être de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe?
C'est le néant. Enfin, j'étais avec quelqu'un depuis août 2017 et on s'est séparés en juin 2021. Je m'attendais pas à la rupture, ça s'est fait assez brutalement.
Comment ça s'est passé?
En fait, il m'a envoyé un texto, il me dit « Écoute, j'ai plus envie d'en savoir plus sur toi ». Et puis, j'ai essayé de rappeler, j'ai appelé tous les jours. Je suis tombée sur sa messagerie.
C'est d'une lâcheté, ça, les ruptures par texto, c'est...
Moi, ça m'a fait super mal. Et depuis, je tourne en rond, je n'ose même plus sortir. Enfin, J'essaie de sortir un petit peu, mais j'ai plus de goût en fait. J'ai plus de goût à rien.
Et vous n'aviez rien vu venir?
Non.
Mais si je comprends bien, vous ne viviez pas ensemble?
Non, on ne vivait pas ensemble.
Et pourquoi d'ailleurs au bout de si longtemps?
Parce qu'il avait déjà deux enfants, il m'a dit que c'était compliqué, il ne me faisait pas confiance en gros. Moi, j'ai vu qu'il ne me faisait pas confiance en fait.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas investi dans l'histoire autant que vous, quoi.
Non. C'était un déséquilibre total, en fait. C'est ce que je suis en train de remémorer. Et puis, je me dis, ouais, en fait, c'est moi qui ai donné plus que lui m'a donné, en fait.
Et donc, le bon côté de la situation, c'est qu'il valait mieux que ça s'arrête, parce qu'à terme, c'était droit dans le mur.
Moi, j'aurais bien voulu qu'on essaye de tenter encore, parce que je pense que c'est lui, s'il serait... peut-être plus investi, autant que moi je me serais investi, je pense que ça aurait été bien.
Mais oui, mais s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y avait des raisons.
Mais justement, c'est que je ne les connais pas du tout. Donc
Alors là aussi, attention à ce que je disais en début d'émission, l'interprétation. On aura tendance à interpréter beaucoup de choses quand on ne sait pas, et là, juste, vous ne savez pas pourquoi. Est-ce qu'il vous a menti? Est-ce qu'il n'était pas disponible? Est-ce qu'il n'était pas vraiment amoureux? Il y a plein de possibilités. Est-ce que quelqu'un d'autre est arrivé dans l'histoire? Tout ça, on ne sait pas. Et a priori, il n'a pas envie d'en parler, donc vous ne le saurez pas. Tout ce qui m'apparaît comme assez clair quand même, c'est que ce n'est pas quelqu'un de fiable. En tout cas, qui n'a pas été aussi honnête que vous semblez l'avoir été dans cette relation. Et que forcément, ça vous aurait fait encore plus de mal si vous étiez engagé plus loin. Je sais bien que vous avez du mal à l'entendre parce que c'est tout frais encore, c'est tout récent.
Mais vous savez puis en plus, il y a encore des sentiments, donc c'est pour ça aussi.
C'est normal, mais vous savez ce que je dis souvent dans ces cas-là? Attention au film que vous vous passez. Ne vous repassez pas le film version idéale.
Non.
Et c'est souvent ce qu'on fait quand on vient d'être quitté par quelqu'un. On se passe le film de ce qu'on aurait aimé vivre. Vous me dites, s'il avait... J'aime bien parce que vous avez dit essayer de tenter, c'est révélateur quand même. Quand on dit essayer, c'est déjà souvent qu'on se laisse une chance de rater. Alors essayer de tenter, il y avait peu de chance quand même. Oui. Et quand vous vous repassez le film en boucle, comme j'imagine que vous le faites en ce moment beaucoup, soyez sincère avec vous-même. Repassez-vous le film avec vraiment tout ce qu'il a été, tout ce qu'il y a eu de décevant chez lui.
Je sais que plusieurs fois, j'ai dit c'est moi qui vais arrêter. Ah. Mais comme j'étais très, 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 très amoureuse, j'y arrivais pas en fait. Mais je sais que oui, il y avait plusieurs choses qui m'ont déçu en lui. Il y avait des rendez-vous loupés qui m'appelaient pas, c'était moi qui étais obligée de rappeler. J'avais oublié. Je pouvais pas. Enfin, c'était très souvent ça et c'est vrai que c'est passé parce qu'après quand on se voyait, c'était c'était tout beau, tout rose, quoi, comme on dit. Et, c'est vrai que ça a effacé complètement les faux rendez-vous. Ça a effacé tout, quoi, en fait, en gros.
Oui, mais peut-être ça n'aurait pas dû effacer tout, justement, pour vous laisser un petit peu en alerte, vous voyez. Garder une petite vigilance. Comment c'était avant lui, sur le plan amoureux, il y avait qui?
Personne. Enfin, moi, c'était très compliqué avec les hommes, déjà.
Pourquoi?
Parce que quand j'étais obèse, c'est vrai que j'attirais pas trop ce que je voulais. Donc, et puis, il y a aussi le côté familial en a fait que, comme je suis d'une certaine origine et faut pas trop se livrer aux hommes comme ça, faut rester vierge pour le mariage et tout ça, et ça m'a été inculqué depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que bah, j'osais pas, ou soit si j'osais, bah, j'avais peur du regard des autres, ou qu'on me voyait avec quelqu'un. Ou... Enfin, j'étais tout le temps dans la surveillance, quoi, en fait. Enfin, c'est même pas la surveillance, c'est de peur d'eux, en fait.
J'entends
de peur de décevoir.
Est-ce que je me trompe ou j'entends un petit peu de honte et d'humiliation dans ce que vous avez vécu? Ou la peur de la honte, en tout cas?
C'est ça, la peur de la honte, plutôt, oui.
Oui.
Et
donc... L'inverse de la peur de la honte, c'est aussi un grand besoin de reconnaissance et d'amour.
C'est ça.
Et donc, je me demande du coup si, avec les hommes en général, avec lui en particulier, vous n'étiez pas plus dans une forme de dépendance qu'une forme d'amour.
Non, en fait, c'est vrai que je me souviens que quand j'ai eu un gros coup de foudre pour quelqu'un, eh ben, j'étais trop
accro,
attachée en fait,
trop
à la
accro,
personne.
Mais oui.
Voilà, c'est ça, d'un coup, en fait. Et la personne, je me rappelle qu'une fois, m'avait dit « Mais écoute, tu m'as dit « Je t'aime » dès le premier rendez-vous, c'est un
Ouf.
Peu bizarre. »
Et oui.
Oui, bah ça c'était quand j'étais ado. C'est vrai que moi, pour moi, c'est que je le voulais pour moi, en fait.
Et oui.
Donc,
quand on meurt
je
de,
voulais pour
quand
moi.
Quand on meurt de
et
soif, on boit au point de s'en étouffer, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Et c'est vrai que bah, dans mes relations, c'était à peu près la même chose, quoi, en fait. Il n'y a pas une journée où je ne suis pas restée toute seule. Et là, je vois que je suis tout seul depuis le mois de juin. Et c'est vrai que ça me fait mal au cœur, quoi. Ça me fait mal au cœur.
Est-ce que c'est pas comme si vous aviez cherché dans l'autre la solution à vos problèmes à vous? Comme si l'autre allait réparer des blessures?
C'est vrai qu'il y a de ça aussi.
Et oui.
Un espèce de pansement, oui. C'est
Et
vrai.
Quand on s'identifie tellement à l'autre, quand l'autre s'en va, on n'existe plus.
Je me sens complètement nue, en fait.
Une fois de plus, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur une relation de couple. On est trois dans un couple. Il y a l'autre, il y a vous, il y a la relation. Et là, quand je vous écoute, vous n'existez pas dans le couple. C'est,
non, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'effacé, généralement. Je m'efface souvent, même en famille, c'est toujours ma sœur, vu qu'elle a du caractère.
Alors, j'allais vous dire qui vous efface. Quand on dit « je suis effacé », c'est qu'on est en principe effacé par quelqu'un.
Bah, c'est ma sœur. Ma sœur a un caractère, ma sœur travaille. Ma sœur est indépendante, ma sœur gagne sa vie, ma sœur... Enfin, c'est vrai que j'aimerais bien être à sa place, et c'est vrai que depuis toute petite, j'aurais voulu vraiment avoir une jumelle, quoi, en fait. Avoir un allié avec moi, en fait.
Elle est plus âgée que vous? C'est l'aînée?
Non, elle est plus jeune que moi. C'est moi l'aînée, en fait. Je me sens comme une toute petite fille, en fait, par rapport à mes frères et sœurs. C'est moi l'aînée. Mais moi, je me sens comme si j'étais la dernière, en fait.
Et pourquoi? Est-ce que vos parents ont fait une différence?
Oui.
Ah.
Donc déjà, il y avait moi, j'étais l'aînée. Après, il y a eu ma sœur. Après, il y a eu un frère un an après ma sœur. Et après, il y a eu deux jumeaux. Et les jumeaux, c'est vrai que c'était, c'était un pour papa et un pour maman. Et depuis, c'est vrai que bon, ils ont fait beaucoup de bêtises. Donc mon père s'est complètement détaché d'eux. Ma mère s'est détachée un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est ma sœur, comme elle est forte, en fait. C'est quelqu'un qui est fort, qui est assez fort.
Qui a pris le dessus, quoi.
Voilà, qui a pris le dessus sur toute la famille. Et c'est vrai que mon père, à l'écouter, c'est son Dieu vivant, quoi, en fait. Et c'est vrai que moi, dans cette relation, on est sept. Je me sens vraiment effacée, moi et mon frère, le troisième, en fait.
Émilie, ce que je vous propose, les informations arrivent.
Ok.
On fait une petite pause et on reprend notre conversation dans quelques petites minutes, d'accord?
Très bien.
Vous ne bougez pas, je récupère pile là où vous êtes. Émilie? Ah, vous m'avez fait peur. Alors dites donc, vous êtes quelqu'un, vous me dites que vous êtes quelqu'un qui s'efface et hop, vous effacez de l'antenne, dites-moi.
Bon. Non, ça a coupé net.
C'est bien ce que j'avais l'impression de parler toute seule pendant un moment.
Non, parce que je vous ai entendu, moi je vous entendais, puis après ça a coupé net.
Bon, on vous a récupéré. Oui, vous me disiez avant les infos que vous étiez 7 dans la famille. 7 enfants ou 7 avec les parents?
5 enfants et plus ses parents, ça fait 7.
5 enfants. Et ce qui est curieux dans la distribution des choses, c'est que malgré le fait que vous ayez été l'aîné, c'est comme si vous avez pris la dernière place finalement, si j'ai bien compris.
C'est ça. C'est exactement ce que je ressens en fait.
Est-ce que ce sont des choses dont vous avez pu parler avec vos parents ou pas du tout? C'est d'une famille dans laquelle on ne parle pas de ça?
Non, on n'est pas. Enfin, c'est plutôt taiseux, quoi, en fait, dans la famille. Mmh.
Et comment se fait-il que votre sœur, elle, s'en soit sortie autrement, alors? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a pu avoir cette force dont vous parlez?
Je pense qu'elle a pris ses jambes à son cou, on va dire. Mmh. Parce que je me rappelle que pour faire le dossier pour aller au lycée, elle est tout de suite partie à Paris, en fait. Oui. Et c'est vrai que ma mère n'a pas compris. Elle a dit, mais pourquoi tu vas à Paris? C'est trop grand. Sachant qu'on habite une petite ville très, très moyenne. Et ma mère ne se voyait pas de la laisser toute seule, gambader, quoi, à Paris, quoi.
Mais elle l'a fait quand même, finalement.
Ah oui, elle l'a fait. Elle a eu son diplôme, elle a eu son bac. Elle a eu bac plus 3, je crois, il me semble. Et puis après, elle a rentré à la SNCF. Et puis là, depuis, ça va, quoi.
Mais elle a construit sa vie.
Voilà, c'est ça.
Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes restée, alors?
Je pense peut-être que c'est la peur de pas essayer, ou la peur de tomber, ou la peur... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout.
Et ce problème de poids dont vous avez parlé, ça a commencé quand?
Problème de poids, j'ai eu depuis toute petite, on va dire. Ça a commencé vraiment à l'adolescence, quand je suis rentrée... En fin de CM2, quoi, en fait. Fin de CM2, je commence à grossir, et puis l'infirmière a dit à ma mère, il faut faire attention à son poids, quoi, en fait.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dont vous avez un souvenir ou pas du tout?
Je pense que c'est la mort de ma grand-mère paternelle.
Ah. Ouais. Pourquoi? Comment est-ce que vous l'avez vécu, ça?
Très, très, très mal. En plus, on n'en parle jamais.
Ah. Donc c'est resté coincé à l'intérieur, ça?
Oui.
C'est une femme dont vous étiez proche?
Très, très, très proche.
Qui vous comprenait?
Oui, elle était très, très bien. Pour moi, c'était ma mère, en fait. Ouais.
J'ai l'impression que c'est la seule qui vous a comprise dans cette famille.
Oui. Mmh. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'elle ne faisait pas de différence avec les enfants. C'est ça que j'aimais, en fait.
Eh oui.
Elle nous a pris tous les 5 comme ses enfants. Et tout le temps, par égal, tout le temps, les mêmes valeurs pour chacun.
Mais ça, il faut garder ça, Émilie, c'est important. Je comprends bien évidemment votre chagrin. Mais il faut aussi vous dire que vous avez la chance de la voir, cette femme. Et garder précieusement tout ce qu'elle vous a donné comme amour.
Mais c'est que c'est loin, ça fait très longtemps qu'elle est morte.
Oui, mais ça vous a nourri quand même à un moment donné.
Oui.
Ça reste en vous, ça, quoi qu'il arrive. Mmh. Et donc ce poids, peut-être, c'était une façon pour vous de vous mettre dans votre bulle, de vous protéger du reste,
hein. Oui, puis j'ai toujours eu peur aussi de l'extérieur, des gens que je connaissais pas, j'ai toujours eu peur.
Oui, donc j'imagine que ça a été compliqué. Est-ce que vous avez eu un souci d'agression physique?
Oui, je sais que quand j'étais à la maternelle, on me tapait souvent parce que j'étais un petit peu métisse, donc il y a souvent des enfants qui me tapaient. Mmh. Et quand je disais ça à la maîtresse ou au maître, ils disaient « Oh, des fois, ils voyaient, mais ils s'en fichaient, ils tournaient le dos. Ouais. » C'est vrai qu'on me tirait les cheveux, on me tapait. Une fois, on m'a jeté de l'eau, j'étais dans les toilettes, on m'a jeté de l'eau sur moi. Personne ne disait rien. Quoi, en fait.
C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'humiliation aussi. On a parlé de honte et d'humiliation. Mmh. Ce sont les blessures qui ressortent là, quand vous parlez de vous, de votre vie. Ouais. Donc tout ça, c'est un début de vie difficile, mais vous avez quand même réussi à avancer, malgré tout ça.
Je trouve que je stagne un peu niveau relation, niveau travail, niveau
amitié. Parlez-moi de votre travail un petit peu, qu'est-ce que vous faites?
Ben en fait, j'étais agent de médiation et de prévention. Et puis, comme c'était un emploi jeune, j'ai fait 10 ans, puis après, j'ai arrêté. Et là, depuis, je suis suivie par un organisme pour l'insertion professionnelle. Et le bilan s'est arrêté ben, lundi. Ça a duré 5 mois.
Oui. Un bilan, genre
C'est ça.
bilan de compétences, quelque chose que dans cette.
Oui,
Oui,
c'est
c'est
ça,
ça.
c'est bilan
D'accord.
de compétences et bilan employabilité, c'est ce qu'ils
D'accord.
appellent.
Et ça donne
Et
quoi?
ben, en fait, je veux me rediriger dans l'aide à la personne. Et c'est vrai que j'ai des difficultés ben, parce que je suis très, très, très réservée, très, très, très timide. Je ne parle pas facilement, je n'aborde pas les gens très facilement. Malgré que les gens, s'ils m'abordent, je réponds facilement et sympathiquement. Mais moi, je n'arrive pas à faire le pas d'aller vers la personne parce que j'ai toujours peur de rejet
Ben oui.
ou je ne sais pas, en
Ben,
fait.
ça se comprend un peu.
Et c'est vrai qu'on m'avait dit de travailler sur ça, travailler sur le fait que d'être actrice de sa vie, de pas.
Alors, c'est pas fort. Oui, je comprends, mais être actrice de sa vie, pour moi, ça veut tout dire et rien dire. Ce qui est plus important pour moi, c'est d'arriver à soigner ces blessures-là. Il y
Oui,
a
puis
une.
de se faire confiance parce que j'ai pas du tout
Et ben
confiance en moi.
évidemment. Mais on ne vous a pas fait confiance, donc logiquement, vous n'avez pas appris à le faire non plus. Et où est-ce que vous en êtes physiquement sur le poids? J'ai l'impression que ça, vous avez réussi à vous alléger.
Pas du tout.
Non, j'ai cru comprendre tout à l'heure ce que vous disiez avant quand j'étais obèse.
Non, j'ai tout. Enfin, c'est vrai que j'avais fait un régime, mais il y a 4-5 ans, j'avais tout fait moi-même. J'avais pas été voir de nutritionniste ni rien. Et puis en 4 mois, j'avais perdu plus de 30 kilos et bah,
Mais oui,
je les ai
oui.
repris. Et puis là, depuis, j'arrive pas en fait.
Pourquoi vous
Donc c'est
ne
pour ça que j'avais. Pardon?
Oui, pardon, pourquoi vous ne vous êtes pas aidé?
Bah parce que en fait, je sais pas pourquoi j'aime bien faire tout toute seule en fait.
Eh oui, mais c'est lourd, c'est difficile, c'est pesant, et c'est le cas de le dire dans les deux sens du terme, et la preuve, c'est que ça n'a pas fonctionné.
Ouais. Bah c'est pour ça que j'envisage de faire une CIV, mais je sais que ma mère est contre, ma sœur est contre, enfin toute la famille est contre quoi en
Mais
fait.
attendez, redites-moi votre âge, Émilie.
42 ans.
Oui, j'ai bien compris. Et vous attendez l'opinion et l'approbation encore de maman?
C'est toujours comme ça, c'est
Ah. C'est peut-être là qu'il y a un petit problème, non? C'est comme si ces deux femmes-là avaient beaucoup plus de valeur que vous. Comme si elles étaient plus importantes que vous.
C'est que j'ai du mal à me décider, j'ai du mal à prendre des décisions et j'écoute en fait les avis et puis c'est
Enfin,
vrai que j'ai vraiment envie de faire cette sleeve et c'est vrai que
c'est votre corps, c'est votre vie, non?
Mais c'est les conséquences, quand on m'a parlé des conséquences après, parce que j'en avais parlé aussi à la dame qui me suivait pour le bilan. Elle aussi me l'a déconseillé, elle m'a dit mais c'est la mode en ce moment.
Non,
Après, vous
je
aurez
parle
un
pas
tablier qui
forcément.
tombe, enfin.
Je parle pas forcément de la sleeve, mais quelle que soit l'aide que vous pouvez demander, c'est comme à vous de choisir. Hein. C'est pas à maman, c'est pas à votre sœur. Je dis pas forcément que la sleeve est une solution. Hein. Je suis pas non plus une grande fan de ça, mais il y en a d'autres des solutions. Et peut-être avant de commencer à s'attaquer au corps directement, qui n'est qu'une conséquence du reste, vous faire aider sur le plan psychologique, réapprendre à vous aimer, à vous donner une place, à retrouver un truc tout bête qu'on appelle la confiance. Eh oui. Parce que logiquement, dans tout ce que vous me racontez, on comprend comment ça se passe avec les hommes. Et on en revient à ce qu'on disait au début, ça n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Comme si l'autre allait pouvoir vous sauver quelque part.
C'est comme si c'est comme si je voyais en fait les portes du paradis quoi en fait. C'est ça que je me dis à chaque fois.
Mais ça c'est on n'est jamais l'autre n'est jamais là pour nous sauver, hein, jamais.
Je sais, mais c'est en fait c'était enfin
C'est plus fort que vous, quoi.
c'est un système que j'ai fait en fait parce que c'est vrai que bah toute ma vie en fait je me suis sentie toujours tout seule. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit ouais moi depuis toute petite j'ai toujours voulu avoir une sœur jumelle quoi, en fait. Parce que au moins on aurait été deux quoi, en fait. Et là, je vois, c'est vrai que je vis toute seule, toute seule, toute seule, toute seule.
Et si vous considériez que vous êtes deux, la petite fille à l'intérieur de vous et vous la grande aujourd'hui? Si vous preniez la petite par la main pour l'aider à avancer un petit peu dans cette vie-là? Et oui, c'est important ça aussi. Allez parler à la petite fille à l'intérieur qui est toujours là et qui m'a l'air d'avoir bien souffert quand même. Hein. Et en même temps, elle a eu les épaules aussi larges que tout ce qu'elle a surmonté. Il faut
C'est ce
aussi
que je me dis aussi.
et oui, il faut aussi être capable de se dire ça à soi-même. De se dire, bah, écoute, bravo. J'ai peut-être raté des choses, mais j'en ai réussi d'autres. Et je suis toujours là, debout. Et j'avance. La preuve, c'est que si, déjà, si vous appelez ce soir, c'est qu'il y a une envie d'avancer, de trouver des sorties.
Trouver des solutions, parce que je n'arrive pas à en trouver toute seule. Comme je vous ai dit, c'est vrai que j'aime bien faire tout toute seule, mais là, je trouve pas, j'arrive pas,
Et
je sais pas quoi
pourquoi
faire.
d'ailleurs vous aimez faire tout toute seule? Quel est
Ben,
le...
au moins,
Oui.
je suis capable de le faire toute seule. Il n'y a pas de critique, parce qu'à chaque fois, c'est toujours. Enfin, dans ma famille, c'est tout le temps dans la critique.
C'est la peur du jugement, alors.
C'est ça, c'est la peur du jugement, c'est que j'ai envie de faire le truc comme j'ai envie, mais c'est vrai que c'est tout le temps dans la critique.
Mais là, vous me parlez de la famille, mais qu'est-ce qui vous empêche de demander de l'aide ailleurs? Chez des médecins, chez des thérapeutes, chez des gens qui ne sont pas là ni pour vous critiquer, ni pour vous juger.
Alors, c'est vrai que je pensais pas vraiment à ça, quoi, en fait. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, je pense que c'est beaucoup mieux.
Ah ben, ça sera pour vous bien plus bénéfique, évidemment. Il y a peut-être un cordon à couper, là. Physiquement, vous êtes où par rapport à ça, à votre sœur et votre mère?
J'ai pas compris.
Géographiquement, vous êtes où par rapport à elle? À maman et...
Ma sœur est à Paris, puis je suis assez proche de ma mère, quoi, en fait.
C'est-à-dire?
On est dans la même ville.
Oui. Et vous la voyez à
Donc,
quel rythme?
tous les jours.
Oui. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être un cordon qui va être temps de couper.
Je sais, mais c'est qu'elle est malade, elle a une polyarthrite rhumatoïde, il y a certains gestes qu'elle ne peut pas faire. Donc moi, je me vois mal la laisser et puis qu'elle se débrouille toute seule, c'est pas possible, elle sait pas lire, elle sait pas écrire. C'est un peu compliqué, quoi, aussi, dans ce côté-là.
Rappelez-moi combien il y a d'enfants autour de dans la fratrie?
Cinq. Mais je sais que les autres, on peut pas compter sur eux. Surtout sur les garçons. À chaque fois, on dit ça à ma mère et puis elle nous dit, oh, bah, vous aimez bien vous chamailler entre filles et garçons. Mais ce qui est vrai, c'est. Enfin, moi, je sais que mes frères, on va leur demander quelque chose, 3 jours après, ça va pas être fait.
Et donc, de fait, vous êtes devenue la mère Teresa, quoi.
Voilà.
Ouais. Maintenant, vous savez que vous êtes libre ou pas d'accepter ce rôle-là.
Non, mais je sais, on me l'a dit. Enfin, pendant mon bilan, c'est ce que la dame m'a dit
Ah, ben
aussi.
voilà.
On m'a dit, ce serait peut-être temps, vous allez passer à côté de beaucoup de choses, vous avez 42 ans, vous pensez à vous.
Et souvent, quand on dit oui, mais si je le fais pas, les autres le feront pas, c'est pas si sûr que ça. S'il n'y a pas le choix, à un moment donné, il faudrait bien qu'il y en ait un qui se bouge quand même, non? Mais si on va plus loin dans la réflexion, le souci, c'est qu'en faisant ça, je pense que vous cherchez vous aussi de l'amour. C'est
Oui, c'est peut-être ça aussi.
une manière à vous de vous rendre indispensable et de leur montrer que vous avez de la valeur. Ce qui serait important que vous compreniez, c'est que la valeur, vous l'avez. Vous l'avez en étant qui vous êtes, pas en faisant ce que vous faites. Parce qu'en plus,
C'est que, pardon, excusez-moi, c'est que quand on sait montrer ce qu'on fait, au moins on sait qui on est en fait. Enfin, moi, c'est mon fonctionnement, tandis que si on a la valeur, mais on ne la fait pas montrer, on ne sait pas si on a de la valeur ou pas.
je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est le fonctionnement qu'on vous a appris. C'est-à-dire
Oui, c'est vrai.
qu'on a mélangé être et faire chez vous. Un petit bébé qui vient au monde, il est précieux. Il est important. Vous êtes d'accord avec ça? Il a de la valeur. Pourtant, il n'a rien fait. Il a rien fait, il n'a rien dit. Il n'a même pas ouvert la bouche encore. Et oui, ben oui, je sais que c'est vrai. Vous avez de la valeur parce que vous êtes qui vous êtes, Émilie. Le problème, c'est quand on ne nous a pas appris, quand on ne nous a pas donné cette valeur-là petit, on compense en faisant. On a l'impression
c'est
que
ça.
être ne suffit pas, donc il faut faire. Le problème, et vous l'aurez compris, c'est que plus vous en faites, moins vous êtes reconnaissant.
C'est ça. Parce que c'est vrai que nous, depuis qu'on est tout petit, on s'est un peu autogéré. Comme je vous ai dit, mes parents ne savent pas lire, pas écrire. Donc c'est surtout moi qui faisais les papiers. J'allais à des rendez-vous, que ce soit médicaux, administratifs, mairie, école. Donc avocat.
Et en même temps, vous avez trouvé un rôle là-dedans. Une place.
C'est vrai qu'on me félicitait souvent dans ces choses-là. Et puis on nous faisait souvent aussi quand on débarrassait la table, quand on rangeait, quand on faisait les courses, quand on allait chercher le pain.
Ouais.
C'est surtout ça aussi.
Quand vous étiez dans l'action, dans le faire.
C'est ça.
Émilie, on marque une pause ?
Ok.
Et on reprend la conversation, merci.
Très bien, je vous remercie.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Émilie.
Oui.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous commencez à avoir compris le schéma de fonctionnement de tout ça, finalement.
En fait, c'est vrai que c'est quand j'étais lundi au bilan et qu'elle m'a fait tout le récapitulatif de comment elle me voyait, ça m'a fait une claque, en fait. Ça m'a fait vraiment une véritable claque, dire qu'à 42 ans, vous n'êtes pas mariée, pas d'enfant, vous vivez seule, vous ne travaillez pas en ce moment, et vous dépendez toujours de vos parents.
Vous ne vous autorisez pas à être celle que vous êtes.
Non, oui. C'est vrai que j'avais parlé avec elle de faire tout ce qui est artistique, et c'est vrai que je me donne pas les moyens parce que je sais pas comment faire, je sais pas où aller, je ne sais pas.
Vous avez appris à faire ce qu'on vous demande de faire.
Voilà.
Sans
mais
penser
moi,
que vous avez d'autres droits, quoi.
Je n'y arrive pas.
Alors, je préférais que vous disiez je n'y arrive pas encore.
Oui, je n'y arrive pas encore, voilà.
C'est un petit mot qui change beaucoup de choses, ça. Et je pense déjà qu'entre le fait de faire le bilan, le fait d'avoir appelé ce soir, il y a quelque chose qui bouge, là.
J'espère, parce que c'est vrai que j'ai envie de changer. C'est vrai qu'elle celle qui me suivait me disait aussi que vous avez de la valeur, mais il faut l'exploiter comme un diamant, quoi, en fait. C'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très, très beau, la phrase qu'elle m'a dit. Et j'ai dit, j'espère que je vais y arriver. Et en tout cas, c'est ce que je veux, quoi, en fait.
Mais c'est-à-dire qu'avant de l'exploiter, il faut vraiment prendre conscience. Et je pense que l'image du bébé vous restera.
Oui.
Vraiment comprendre la différence entre être et faire. Quand on a les deux, c'est merveilleux. On s'autorise à être et à faire ce qu'on a envie de faire. Et on peut tout à fait ensuite être dans l'aide, le soutien, etc. Mais là, il n'y a que ça. Comme si c'était le seul moyen que vous avez trouvé, plus ou moins consciemment, d'avoir une place dans cette famille. Mais ça, ce n'est pas normal. Les autres ont la place qu'ils ont choisie, qu'ils ont voulu. Vous avez pris la place qu'on vous a obligé à prendre. Il n'y a aucune raison à ça. La personne qui vous suit, là, c'est quoi ? C'est un coach ? Une thérapeute ?
Non, c'est... je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai plus le nom.
Conseillère d'orientation, chose comme ça.
Conseillère d'insertion.
D'accord.
Insertion, parcours, insertion.
Parce que peut-être elle pourrait vous conseiller une coach. Pas forcément très longtemps, mais vous voyez, quelques séances avec quelqu'un qui pourrait vous booster un peu. Puisque vous avez besoin pour l'instant d'avoir cette jumelle en face, de ne pas être seule.
Oui, c'est vraiment ça, moi, j'ai trouvé. De toute façon, elle avait marqué que j'étais encore fragile et que j'aurais besoin d'un soutien, quoi.
Ben voilà. Donc si vous n'avez pas envie de vous engager dans une grande thérapie, ce que je peux comprendre, hein, c'est un choix différent, vous pouvez aussi choisir de faire un peu de coaching avec quelqu'un qui saura vous remettre de la lumière sur cette valeur qui est la vôtre. Et que vous avez depuis le premier jour où vous êtes arrivé au monde, avant d'avoir fait quoi que ce soit. À part pousser un grand cri. pour dire j'existe.
En fait, le grand cri, je le pousserai quand j'aurai réussi ma vie, en fait.
Ce sera le deuxième. Mais réfléchissez à tout ça, et notamment à vos histoires de couple, parce qu'évidemment, ça, c'est le même fonctionnement.
Là, c'est que c'est vrai que être seul, c'est j'allais dire un mot, mais j'arrive plus à trouver le mot. C'est embêtant, c'est...
Ouais, mais vous voyez, ce que je retiens de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, et ce qui est, je dirais, choquant dans le sens où il faut que ça soit travaillé, c'est que vous m'avez dit... Il s'est permis des choses avec moi qui étaient quand même pas très normales. Il oublie des rendez-vous, il prévient pas, il appelle pas. Mais quand il est gentil avec moi, j'oublie tout.
C'est vrai en plus.
Et ça résume tellement le manque d'estime que vous avez de vous-même. Mmh. Ça, c'est pas acceptable.
Bah, c'est vrai que je lui disais que c'était pas normal, mais après, c'est vrai que ça passait, en fait. Parce que lui, il trouvait toujours une excuse à dire bah, « c'était mes enfants, je les ai ramenés ici ou là ou... ».
Peu importe ce que l'autre trouve, quand le comportement n'est pas acceptable, ce qui compte, c'est pourquoi vous l'acceptez.
Mmh.
Et je pense qu'en travaillant un peu sur vous et sur l'estime de vous-même, vous n'accepterez plus ça après. Vous verrez.
C'est ce que je pense, ouais. Parce que c'est vrai que... Il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées, même quand j'étais un peu plus jeune, même là encore maintenant, hein, que j'accepte et je me dis, bah, c'est pas grave. C'est toujours ce mot-là que je me mets à chaque fois. Je me dis, bah, si j'étais gentille ou si j'ai fait une bonne action, bah, c'est pas grave. Au moins, j'aurais pas à repenser à que j'ai fait mal ou que j'ai pas fait ceci ou cela.
Et vous êtes encore dans le faire, vous voyez.
Encore dans le ?
Dans le faire, pas dans l'être.
Oui, c'est vrai. C'est que ça a été inculqué depuis que je suis toute petite, donc c'est vrai que ça va être un peu dur de m'en débarrasser, mais c'est vrai qu'il faut que je diminue, en fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment dur, en fait, de savoir qu'un père, il vous a négligé, que votre mère vous a utilisé comme la seconde... Enfin, je vais pas dire boniche, mais c'est à peu près ce mot-là que je vais prendre. Parce qu'elle avait besoin de soutien aussi, ce que je comprends. Enfin, ce que j'ai compris en ayant grandi, parce que quand on est tout petit, on ne comprend pas. On se dit, bah, tiens, je vais l'aider, puis voilà. Ouais. Et c'est en grandissant, oui, je vois que, en fait, ma mère a complètement... C'est complètement oublié, en fait.
Ouais. Après, je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu, là où elle en était. Hein.
C'est ça, et puis... Elle était jeune aussi, elle avait 15 ans quand elle s'est mariée, mon père en avait 30. Donc,
Il faut voir quelle éducation elle a reçue, quelle vie elle a eue, quelle blessure elle a dû endurer.
Elle m'a dit que son père travaillait, était souvent en déplacement. Sa mère était morte quand elle était jeune, donc elle s'est fait éduquer par ses frères et sœurs. Donc c'est pas du tout le même contexte, quoi, en fait. Et, c'est vrai que des fois, Je me mets à sa place, des fois. C'est pour ça que je vais l'aider de temps en temps. C'est pas parce que j'ai envie. Des fois, j'ai même pas envie. Hein. Mais c'est que je me dis, mais franchement, fais-le. Et puis, de toute façon, ça te fera du bien. Et puis, à elle aussi, ça lui fera du bien. Et puis, ça la permettra de voir autre chose, quoi. C'est juste pour ça, en fait, que je le fais. C'est même pas... Excusez-moi.
Non, je vous en prie. Mais quand vous me dites ça me fera du bien, mais est-ce que ça vous fait du bien d'y aller? J'ai pas l'impression...
Bah, ça me fait du bien sur le coup parce que je sais que je vais faire quelque chose pour elle, en fait, pour que ça la décharge, en fait.
Parce que vous avez été utile, quoi.
Voilà, c'est ça.
Il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de vous en urgence en ce moment. Vous savez qui ?
Pardon ?
Il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de vous en urgence en ce moment. Est-ce que vous savez qui ? C'est vous, tout simplement.
Oui, c'est vrai.
Alors, promettez-vous, aujourd'hui, promettez-moi de vous occuper de vous d'abord.
Mmh.
Mmh. Puis dites-vous aussi que le jour où vous allez vous écrouler parce que vous aurez oublié de vous occuper de vous, vous serez plus bonne à rien pour les autres non plus. Hein.
C'est vrai que je commence à avoir des lombalgies, donc c'est pas très évident.
Ça, c'est le corps qui commence à vous dire stop.
Ouais.
Quand le mental ne veut pas comprendre. Et oui, ça s'appelle en avoir plein d'eau.
J'ai du mal à dormir. Ça fait quelques semaines que j'ai du mal à dormir aussi. Enfin, depuis la rupture, on va dire. Depuis la rupture, je fais des réveils nocturnes. Des fois, je me lève à 2h, 5h. Je me rendors. Et après, je me réveille. Enfin,
et oui. Quand le mental ne veut pas comprendre, le corps prend le relais. Ça veut dire qu'il est temps de changer des choses.
Faut que je change entièrement, en fait.
Vous changez quoi, pardon ?
Entièrement.
Entièrement ? Oh, non, pas forcément.
Non, je veux dire entièrement. Déjà, mon corps, c'est vrai que j'ai envie de maigrir.
Mmh.
J'ai envie aussi de faire ce que j'ai envie de faire, les choses artistiques, me marier aussi. Ça, c'est vrai que ça, c'est un truc. J'aimerais vraiment me marier, mais bon, ça, on verra. On verra. Et c'est vrai que j'ai envie d'avoir un bon travail, peut-être de déménager, peut-être de voyager, peut-être. Oui, j'ai envie de beaucoup de choses, quoi, en fait.
Alors faites-le. J'ai l'impression que la seule qui vous empêche de le faire depuis très longtemps, c'est vous. En tout cas, une partie de vous qui est bloquée.
Ouais.
C'est pour ça que je vous dis, faites-vous aider. Faites-vous aider par quelqu'un qui pourra vraiment... non pas vous porter, parce que vous avez besoin, au contraire, qu'on vous pousse, pas qu'on vous porte. Qu'on vous donne de l'élan, vous voyez.
C'est ça. C'est exactement ce qu'elle a dit, la dame. Elle dit.
Elle me plaît bien, cette dame-là. On a l'air en phase, en tout cas. Ça fait plaisir de vous entendre rire un petit peu.
Merci.
Ça fait du bien.
Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. C'est vrai que je suis plutôt de nature assez tristounette, en fait. Quand ça va pas, en fait, je suis assez tristoune. Même si ça va, je suis pas contente, en fait. Même si ça va. Hein.
Pas forcément. Alors, c'est marrant parce que plus je vous écoute, plus j'ai l'impression qu'il y a deux vous. Il y a une vous à l'intérieur qui est vraiment très chouette, qui est pleine de vie, qui est pleine de sourires, qui est pleine de lumière. Et puis il y en a une autre à l'extérieur qui est bloquée par le poids, qui est bloquée par la peur, qui est bloquée par maman, par la sœur, par tout ça. Comme s'il y avait une espèce de carapace autour de vous. C'est un peu l'image que j'ai. Mais ce qui
c'est vrai, quand je sors, c'est vrai, ou quand je suis avec des gens que je connais, avec des amis et tout, c'est vrai que j'ai du mal à briser cette coquille, en fait. Quand je connais bien, ça va, je suis bien. Mais si je connais pas trop, ou si je vois que la personne, je la sens pas, je ne vais pas parler du tout, en fait. Je vais être comme une huître, en fait. Je ne vais pas parler du tout.
Vous savez, je me rends compte parce que vous n'êtes plus la même que tout à l'heure, déjà. Vous ne parlez plus de la même manière, vous n'avez plus la même voix ni le même ton. Il y a quelque chose qui s'est libéré, qui s'est ouvert un petit peu.
Ça, c'est en parlant de ma grand-mère, je pense.
Et je suis persuadée qu'à l'intérieur de vous, il y a plein de belles choses qui ne demandent qu'à sortir. Pour ça, il faut ouvrir la porte.
Exactement. Hein? C'est ce que je vais faire. C'est ce que je dois faire, en tout cas.
Et si vous avez besoin d'aide, je viens avec un... comment on appelle ça? J'ai l'image en tête, j'ai pas le nom. Tu sais, quand on force les portes, là. Comment ça s'appelle?
Un bélier?
Oui, voilà. Hein, on va s'y mettre à deux. On va s'y mettre à deux pour l'ouvrir, cette fichue porte.
Ouais, je pense qu'il faudrait un bélier, oui.
Eh bien, s'il faut un bélier, j'en amène un.
Doublé d'un taureau, je dirais aussi.
D'accord, si vous voulez. Et n'ayez pas peur de ce qu'il y a derrière la porte. Il y aura plein de belles choses aussi.
Ok. Je vous remercie beaucoup, Sabine, en tout cas. Ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait... j'espère trouver la force, en tout cas.
Et bien, je suis ravie d'entendre ce joli sourire pour terminer.
Merci, je vous remercie beaucoup, Sabine.
Je vous embrasse, Émilie, très fort.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.